Vous écoutez On lit pour vous.
Un festival qui met en valeur les artistes qui vivent avec un handicap. Un texte de Myriam Gauthier et Catherine Paradis, paru le 4 mai 2025 dans Radio-Canada. Les artistes du dernier spectacle du festival Un talent pas si différent ont performé devant une salle presque comble à la salle Pierrette-Gaudreau de Jonquière. L'événement culturel a été créé pour mettre de l'avant les prestations artistiques de personnes qui vivent avec un handicap dans la région. Le festival, qui en était à sa 5e édition, est organisé par l'Association régionale pour le loisir des personnes handicapées. La porte-parole du festival, Geneviève Percheron, qui est aussi la directrice générale de l'association provinciale, souligne l'importance de ces spectacles. Souvent, c'est leur seule occasion de pouvoir recevoir cette reconnaissance-là, de pouvoir être félicité, de pouvoir briller en avant d'une scène, de voir leur œuvre exposée dans une galerie d'art. Sans des festivals comme ça, ils n'auraient pas l'occasion d'être mêlés à monsieur et madame tout le monde. L'événement permet de mettre en valeur le talent des participants. « On est tous égaux devant l'art », souligne madame Bergeron. Quand on regarde une œuvre, ce qu'on voit, c'est l'œuvre. On ne voit pas le handicap. Alors, souvent, on est capable de faire abstraction de ça et de voir le talent artistique derrière, et ça nous ramène tous à la même chose, à la même place. Il s'agissait de la première édition en présence, après deux éditions virtuelles en raison de la pandémie. Le festival a rassemblé plus de 70 artistes de la région, dont le pianiste Louis Morel. C'était un festival qui met en valeur les artistes qui vivent avec un handicap. Un texte de Myriam Gauthier et Catherine Paradis, paru le 4 mai 2025 dans Radio-Canada.
MRC de Masquinongé, service de transport adapté pour les aînés en perte d'autonomie. Un texte de la rédaction, paru le 7 mai 2025 dans L'Écho de Masquinongé. La Corporation de transport collectif et adapté de la MRC de Masquinongé, CTCAM, offre depuis quelques mois, en étroite collaboration avec le CIUS MCQ, un service de transport collectif adapté aux personnes âgées en perte d'autonomie physique ou cognitive. Ce partenariat vise à favoriser et faciliter la mobilité des personnes vulnérables. En place depuis octobre, ce projet propose notamment un transport collectif adapté auprès d'une quinzaine d'usagers de façon hebdomadaire. Ce service facilite l'accès aux centres de jour où des activités sont organisées pour maintenir le bien-être et l'autonomie de nombreux usagers. Grâce à ce service de transport, les usagers du service de soutien à domicile peuvent avoir une plus grande autonomie afin de se déplacer et participer aux activités de groupe offertes, et ce, dans un environnement sécuritaire et adapté à leurs conditions. Citation : En offrant du transport collectif et adapté aux personnes âgées devant se rendre au centre de jour, nous permettons à la population d'accéder aux services tout en demeurant le plus longtemps dans leur communauté, indique Valérie Belle-Rose, directrice générale de la CTCAM. Cette belle collaboration avec le CIUS MCQ reflète bien le cœur de notre mission. Fin de citation. De plus, cela permet de faire connaître les différents services de transport offerts par la CTCAM, qui peuvent être utilisés pour d'autres besoins, notamment pour des rendez-vous médicaux ou des déplacements personnels. Cette initiative s'ajoute à un projet semblable offert depuis peu dans la vallée de la Batiscan, signe que les partenaires locaux en Mauricie sont mobilisés afin d'offrir un service de transport adapté au sein des communautés. Citation : Ce partenariat avec la CTCAM nous rend particulièrement fiers, souligne Hugo Toupin, directeur de proximité du partenariat et de la fluidité du RLS de Masquinongé au CIUS MCQ. La mobilisation des différents acteurs dans ce dossier permet de faire une réelle différence pour les usagers du soutien à domicile. Les centres de jour sont un endroit pour socialiser et prévenir le déconditionnement chez les personnes âgées. Il est donc primordial d'en assurer l'accessibilité pour tous. Fin de citation. C'était MRC de Masquinongée, service de transport adapté pour les aînés en perte d'autonomie. Un texte de la rédaction, paru le 7 mai 2025 dans L'Écho de Masquinongée.
Je n'ai jamais vu une plaie d'une telle ampleur de toute ma carrière, dit une infirmière. Un texte de Félix-Antoine Bétil, paru le 5 mai 2025 dans La Presse. L'enquête, chapeautée par le coroner maître Dave Kimpton, vise à refaire le cours des événements avec les personnes impliquées et à émettre des recommandations pour qu'ils ne se reproduisent pas. « Il n'avait plus de fesses, il n'y avait plus rien », révèle la conjointe de M. Meunier, Sylvie Brosseau, en pleurs lors d'un point de presse. Il y a un an, Normand Meunier, tétraplégique de 66 ans, a rendu son dernier souffle. Deux mois avant sa mort, une plaie s'était développée en seulement 4 jours, durant lesquels il était couché sur une civière mal adaptée à son état. Cette plaie à son coccyx s'est alors infectée et s'est aggravée jusqu'à l'os, la rendant incurable. Il était à l'urgence en raison d'un virus respiratoire. Qu'est-ce qu'une plaie de pression? Une plaie de lit, ou plaie de pression en langage médical, se forme lorsqu'une pression soutenue est exercée sur une zone corporelle, généralement un endroit où un os fait relief sur le corps, comme les talons, les fesses ou les hanches. Elle est causée par la suppression de la circulation sanguine dans la zone affectée. Les plaies de lit sont classées en 4 stades selon leur gravité. Des conséquences méconnues. La chef de réadaptation à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, Caroline Joly, a expliqué que M. Meunier souffrait d'apnée du sommeil, d'insuffisance rénale, d'obésité et de douleurs aux épaules. Il y avait donc des complications quant à ses traitements. L'idéal pour lui aurait été d'être couché sur le côté sur son lit. Par contre, il ne tolérait pas d'être couché sur le côté en raison de sa douleur aux épaules, dit Caroline Joly. Les infirmières ont des formations en soins de plaies, mais j'ajouterais un volet pratique, a recommandé l'infirmière au CLSC La Fontaine, Nathalie Forgette, indiquant devoir miser sur la mobilité des patients atteints par des plaies, c'est-à-dire les retourner toutes les 2 heures dans leur lit. Elle a fondu en larmes au moment de regarder les photos des plaies de Normand Meunier, chez qui elle se rendait pour lui procurer des soins, en alternance avec d'autres collègues. 6, voire 7 infirmières sur 13 étaient en arrêt de travail durant la période où M. Meunier recevait des soins à domicile en novembre 2023, selon Ekaterina Kleffas, elle aussi infirmière à domicile au CLSC La Fontaine. C'était presque impossible de voir le même patient chaque jour. Et je faisais approximativement tous les secteurs, témoigne-t-elle. Je n'ai jamais vu une plaie d'une telle ampleur de toute ma carrière, ajoute Ekaterina Kleffas. Walter Zelaya, porte-parole de l'organisme Moelle épinière et motricité Québec, MEMO QC, qui accompagne Sylvie Brosseau, indique qu'il y a une méconnaissance chez certains acteurs, comme les médecins. C'est important que tout le monde soit au courant qu'une plaie de pression peut mener à la mort. Dans la salle, plusieurs personnes en fauteuil roulant assistaient aux audiences. Manque de communication. C'est beaucoup trop long de lire le dossier de Normand. On me disait, résume-nous-le. Moi, je ne suis pas infirmière, je suis cuisinière. C'était rendu moi qui devais leur expliquer, indique Sylvie Brosseau, en référence à la mauvaise communication entre les départements de soins de santé où son conjoint s'est fait hospitaliser. Est-ce un problème systémique, à son avis? Oui, c'est organisationnel, beaucoup, cette valeur, parce que dans ma tête, si tu vas à l'hôpital, c'est pour te faire soigner, mais si personne ne se parle, c'est compliqué, confie-t-elle à la presse. Tantôt, l'une des infirmières entendues par le coroner cherchait le nom d'un pansement et c'est moi qui le savais. « Je les sais tous, les termes », dit Sylvie Brosseau. Selon Mme Brosseau, il y a eu un manque de sensibilité à l'hôpital de Saint-Jérôme. « On m'a menacé de me radier de l'hôpital. J'accompagnais mon conjoint 24 heures sur 24 depuis qu'il était devenu tétraplégique, explique-t-elle. Les audiences sur la mort de Normand Meunier dureront 3 semaines, du 5 au 9 mai, du 12 au 16 mai et du 2 au 6 juin. Au total, 36 témoins seront appelés à témoigner. Une première enquête du 6 des Laurentides avait été jugée insuffisante par les proches de Normand Meunier. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait alors déclenché une enquête indépendante. Un mois plus tard, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a provoqué la tenue des audiences publiques à la demande de l'avocat de Mme Brosseau. Il s'agit de la 3e enquête concernant la mort de M. Meunier. C'était « Je n'ai jamais vu une plaie d'une telle ampleur de toute ma carrière », dit une infirmière. Un texte de Félix-Antoine Bétil, paru le 5 mai 2025 dans La Presse.
Des postes abolis dans une ressource pour les jeunes de 12 à 25 ans. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 7 mai 2025 dans Le Devoir. Afin de respecter le budget, des postes ont été supprimés à l'aire ouverte de la Montérégie-Ouest, un service de santé mentale et physique destiné aux jeunes âgés de 12 à 25 ans. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, avait pourtant affirmé récemment que les compressions budgétaires ne toucheraient pas ce type de ressources. Dans l'aire ouverte de cette région, située à Salaberry de Valleyfield, 3 postes ont été abolis en mars dernier. 2 d'entre eux étaient vacants, soit un d'infirmière et l'autre de technicien en éducation spécialisée. Le 3e poste qui a été supprimé était toutefois occupé. La personne en question, qui était spécialiste en activité clinique, était entre autres responsable d'évaluer et d'analyser les besoins des jeunes qui se présentent à cette ressource. Afin de maintenir les services d'air ouverte sur son territoire, le Centre intégré de santé et de services sociaux, CIS, de la Montérégie-Ouest, a indiqué qu'une réorganisation du travail a été effectuée auprès de l'équipe en place. Les intervenants à Salaberry de Valleyfield peuvent recevoir des jeunes de toute région, a-t-il soutenu. Citation : Un service de téléconsultation est également disponible pour faciliter l'accès à ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer. Fin de citation, a-t-il ajouté. Le 30 avril dernier, la députée libérale Elisabeth Prasse a cependant dénoncé l'abolition de ces postes lors de l'étude des crédits budgétaires à l'Assemblée nationale. Citation : Vous étiez pourtant sorti pour dire qu'on ne toucherait pas aux aires ouvertes déjà en place. Fin de citation, a-t-elle dit au ministre Carman en référence à un article de La Presse daté du mois de février. Citation : S'il y a des endroits où, individuellement, ils ont coupé le poste d'une personne, je n'étais pas au courant. C'est un peu hors de mon contrôle. Fin de citation, a rétorqué Lionel Carman. Il a plutôt souligné que son objectif était de maintenir les services dans toutes les aires ouvertes qui sont déjà en fonction. Citation, c'est ce qu'on a réussi à faire. Fin de citation. Lionel Carman a affirmé que dans le contexte budgétaire actuel, il avait accepté que le développement de nouvelles aires ouvertes ne se fasse pas. Citation, cette année, on va travailler ensemble pour redémarrer différents projets. Fin de citation, a-t-il toutefois précisé. Au 31 mars 2025, on comptait 29 sites principaux d'aires ouvertes et 18 sites satellites offrant des services. En 2024-2025, 11 066 jeunes ont consulté ces ressources, soit une hausse de 3 000 personnes comparativement à l'année précédente, indique Santé Québec. Des coupes qui inquiètent. Les coupes en santé mentale jeunesse en Montérégie-Ouest s'accumulent, soulève Isabelle Bessette, représentante nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS, pour cette région. L'aire ouverte n'est pas le seul endroit à avoir eu des coupes, souligne-t-elle. Les postes de 6 employés de l'équipe transitoire du service de santé mentale jeunesse du secteur de Vaudreuil-sur-Oie au Saint-Laurent ont récemment été supprimés. Cette équipe avait notamment pour mission de soutenir les jeunes qui finissent un séjour à l'hôpital en raison de problèmes de santé mentale. Le but est de faciliter leur retour dans leur milieu de vie en les accompagnant vers une prise en charge adaptée à leurs besoins, tant à la maison qu'à l'école, explique le 6 de la Montérégie-Ouest. Cette abolition de poste aura un impact direct sur les adolescents, mais aussi sur leur entourage, estime Mme Bessette. Citation. Ce sont aussi les familles qui étaient épaulées grâce à ces gens. Fin de citation. De son côté, le 6 de la Montérégie-Ouest mentionne que l'équipe régulière de santé mentale jeunesse du secteur continuera d'offrir ses services. Il n'y aura donc pas d'impact sur les jeunes identifiés comme prioritaires, assure-t-il. Citation. Une réorganisation des effectifs est en cours pour optimiser l'organisation du travail et continuer de répondre à la demande. Fin de citation, ajoute l'établissement. C'était « Des postes abolis dans une ressource pour les jeunes de 12 à 25 ans », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 7 mai 2025 dans Le Devoir.
La recherche s'allie au réseau pour offrir des services. Un texte de Catherine Desautels, paru le 6 mai 2025 dans La Presse. Des familles avec un enfant autiste ou avec une déficience intellectuelle bénéficient de services qui sont parfois difficilement accessibles dans le réseau public, grâce aux travaux de la chaire William Barraquette de déficience intellectuelle et troubles du comportement, DITC, de l'UQAM. Ces travaux permettent non seulement des projets de recherche novateurs, par exemple sur les femmes avec une déficience intellectuelle qui se retrouvent dans les refuges pour femmes victimes de violences conjugales, mais ils offrent aussi des services concrets pour outiller les familles et les intervenants. On travaille vraiment en recherche pour créer des capacités dans le réseau. Donc oui, on est là pour les soutenir, mais le but, éventuellement, c'est que les familles soient autonomes à desservir l'intervention sans nous. Tout est pensé comme ça. C'est la recherche participative. On réfléchit déjà en amont avec les gestionnaires et les intervenants pour que l'intervention soit pérenne, explique Mélina Rivard, co-titulaire de la chaire de recherche DITC. Le programme EPATS, Early Positive Approaches to Support, en est un exemple. Développé au Royaume-Uni puis adapté au Québec, il vise à soutenir les parents à travers 8 rencontres de groupe, animées par un intervenant et un parent partenaire. Marianne Laforte et Julie Turgeon font partie des parents partenaires présents lors de ces rencontres. Elles interviennent notamment au niveau de la prévention de la santé mentale et en vulgarisant certaines notions scientifiques. Briser l'isolement des parents. Il existe une grande solitude chez les parents qui ont des enfants différents, souligne Mme Laforte. Sa collègue, Mme Turgeon, fait valoir que les rencontres de groupe permettent de briser l'isolement. Ça nous redonne de l'espoir, ça nous donne le goût d'aller de l'avant, de se réimpliquer, de se réinvestir aussi. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, dit-elle. Là où c'est innovateur, poursuit Mme Laforte, c'est que dans le passé, ces groupes-là étaient souvent animés par un professionnel, puis tous les parents n'étaient comme pas au même niveau. Le fait que ce soit co-facilité par un autre parent, on est là pour dire « c'est normal ce que vous vivez, j'ai vécu la même chose avec mes cocos quand ils étaient plus jeunes ». Les 8 rencontres sont montées en crescendo, explique Mme Turgeon. L'ordre spécifique est pensé en fonction des besoins des parents. La première rencontre est de les rassurer qu'on va trouver les ressources. La deuxième est sur l'importance de prendre soin de soi. La troisième est sur le sommeil, etc. Le sommeil vient aussi tôt dans l'ordre puisqu'un enfant avec des difficultés neurodéveloppementales a plus de chances d'avoir des troubles du sommeil que la moyenne des enfants typiques. C'est plein de petites choses pour aider la famille à faire son évaluation, puis de se donner des outils pour être capable de gérer au quotidien ces enjeux-là, parce qu'il y a beaucoup de parents épuisés, soutient Mme Laforte. Entre 30 et 40 % des personnes présentant une déficience intellectuelle auraient un trouble du comportement, et cette proportion est estimée entre 60 à 94 % chez les enfants autistes, ce qui comprend aussi d'autres troubles concomitants, comme des troubles anxieux. Le bien-être des familles est mis à mal et cela augmente la détresse psychologique des parents et de la fratrie. De 30 à 50% des parents répondent aux critères d'un trouble de santé mentale, un taux plus élevé que chez les parents d'enfants ayant toute autre condition. C'est dans ce contexte que les professeurs au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, Diane Morin et Mélina Rivard, et co-titulaires de la chaire William Barraquette, s'efforcent de mieux comprendre les besoins des parents et des intervenants pour les aider à naviguer dans le quotidien des enfants autistes ou avec une déficience intellectuelle. Élargir les services au Québec. Depuis 2008, la chaire de recherche a permis de réaliser plusieurs projets porteurs pour les familles concernées. La nouvelle phase des travaux de recherche s'échelonnera jusqu'en 2030, grâce à un don de 1,5 million sur 5 ans de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, qui a un souci de soutenir les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Plusieurs projets ont déjà été mis en branle, mais l'argent servira entre autres à les déployer à plus grande échelle. Le programme IPAT, dont font partie Mesdames Turgeon et Laforte, est offert présentement au CIUS de l'Est dans Montréal, au CIUS Mauricie Centre du Québec et au Centre de réadaptation Marie-Enfant au CHU Sainte-Justine. Déjà, 200 familles y ont eu accès. Ce qu'il va y avoir de nouveau, c'est qu'on veut l'élargir, qu'il fasse vraiment partie de l'offre de services dans les autres régions, aussi dans les six ESIUS, notamment en lien avec le programme Agir tôt, détaille Mme Rivard. Agir tôt est un programme gouvernemental qui s'adresse aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs familles, dans le but d'identifier le plus rapidement possible les indices de difficulté dans le développement d'un enfant afin de l'orienter vers les bons services rapidement. C'était « La recherche s'allie au réseau pour offrir des services », un texte de Catherine Desautels paru le 6 mai 2025 dans La Presse.
SLA. La pointe de l'iceberg dans le Val-Saint-François. Un texte d'Anthony Ouellette paru le 7 mai 2025 dans La Tribune. Des citoyens du Val-Saint-François se sont montrés inquiets du nombre de cas de sclérose latérale amyotrophique, SLA, recensés par la santé publique dans leur MRC, qu'ils trouvent peu élevés. Tous saluent toutefois la volonté des experts d'aller au fond de l'affaire. Mardi, la santé publique estrienne a présenté les premiers résultats de son enquête sur le nombre élevé de cas de SLA dans le Val-Saint-François. Essentiellement, on en dénombre 20 entre 2012 et 2025, et de possibles facteurs de risque environnementaux seront bientôt étudiés en profondeur par les experts en santé publique. Mais voilà, pour plusieurs citoyens présents à la rencontre d'informations tenue à la Poudrière de Windsor mardi soir, ces 20 cas confirmés représentent un nombre bien bas par rapport à ce qu'ils ont observé dans leur communauté. C'est le cas de Jonathan Garraud, qui a pris la parole devant les quelques 110 citoyens présents et les expertes en santé publique du CIU3S, qui donnait la présentation pour signaler que, selon lui, des cas sont passés sous le radar. Sa femme, Catherine Hudon, est elle-même décédée de la SLA. Elle était de Richmond. Quand Catherine a eu son diagnostic en 2018, 4 voisins sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient eu un cas dans leur famille. Je me suis dit que ça faisait beaucoup, 4 personnes dans ma rue. Peut-être que c'est le hasard, mais de ce que j'entends à Richmond, la SLA, c'est une maladie malheureusement bien connue. C'est presque rendu normal ou pas surprenant de mourir de la SLA, précise-t-il. Même son de cloche pour Julie Dubois, la citoyenne de Windsor qui est à l'origine du signalement qui a poussé la santé publique estrienne à enquêter sur le phénomène. Je pense qu'il y en a peut-être plus que 20. Il y a des gens ici que je ne connais pas et qui arrivent avec d'autres histoires. Je suis mitigée, indique-t-elle. Selon la docteure Mélissa Généreux, médecin conseil à la santé publique estrienne, il pourrait y avoir de nouveaux cas qui seront recensés après la rencontre de mardi soir. Un code QR qui mène à un questionnaire de la santé publique a été mis à la disposition des citoyens et une dizaine d'entre eux l'ont balayé en quittant. Travail apprécié. Malgré tout, les citoyens sur place ont tenu à souligner la démarche de la santé publique. C'est une équipe de scientifiques chevronnés qui vont poser les questions. Le processus sera méticuleux et les questions se posent, mentionne M. Garraud. La directrice de la santé publique en Estrie, la docteure Isabelle Sanson, a par ailleurs voulu réitérer en entrevue avec la Tribune que son équipe arriverait bientôt à répondre à la question de l'excès ou non de cas dans le Val-Saint-François. En ce moment, des problèmes méthodologiques empêchent la santé publique de se prononcer sur ce point hors de tout doute. Disant être moins optimiste, d'être en mesure de trouver une cause précise au cas de SLA dans le secteur, elle précise que l'enquête menée actuellement par son équipe pourrait déboucher sur des révélations intéressantes pour de futures recherches ou même des recommandations qui pourraient être bénéfiques pour l'ensemble du Québec. La docteure Sanson a par exemple évoqué la possibilité de la création d'un registre des cas de SLA au Québec, qui pourrait grandement faciliter la collecte et la comparaison de données sur cette maladie en province. Est-ce qu'un registre de SLA pourrait être utile pour favoriser plus de recherches et aider au niveau clinique? Peut-être que oui. Pour ce qui est du volet santé publique, donc prévention pour le moment, il est trop tôt pour le dire, mais d'avoir un registre dans notre situation nous aurait aidé à accélérer l'enquête, note quant à elle la docteure Généreux. La phase 2 de l'enquête, qui démarrait à toute fin utile mardi soir lors de la présentation des résultats de la phase 1, devrait s'étendre sur plusieurs mois. À la fin de celle-ci, il y aura 3 voies possibles. La fin de la démarche, si rien n'est trouvé, la poursuite avec un processus de recherche, si on identifie un lien environnemental commun, ou la fin de la démarche avec un processus de suivi si les résultats sont mitigés. C'était SLA, la pointe de l'iceberg dans Val-Saint-François, un texte d'Anthony Ouellette, paru le 7 mai 2025 dans la Tribune.